France Inter. Léa Salamé, Nicolas Demorand. Le 7-9.
Bienvenue sur Inter, bonjour à tous, nous sommes le lundi 10 mai, bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, une page d'histoire, l'élection il y a 40 ans du premier président socialiste de la 5e République, c'était le 10 mai 1981, c'était François Mitterrand, un anniversaire sous le signe de la nostalgie, reportage dès le début du journal et le grand entretien de la matinale à 8h20 avec l'ancien président de la République François Hollande, avec lequel vous pourrez dialoguer au 01 45 24 7000. Le standard est ouvert, on voit tout ça Agnès après les autres titres.
Deux suspects arrêtés hier soir, 4 jours après la mort d'un policier à Avignon. Vaccinés 7 jours sur 7, même les jours fériés. La volonté affichée par le gouvernement sera-t-elle respectée pour le pont de l'Ascension? L'enquête de Béatrice Duguay. La dernière usine de papier recyclé en France menacée de fermeture. Et parce qu'elle avait envie de se bastonner avec ses frères, ce sont ses mots. Chirine Boucli est devenue championne de judo et elle ira au JO de Tokyo.
Et l'invité de France Inter, votre invité à 7h50, Léa.
Oui Nicolas, le conseil scientifique est sorti de son silence. Il a publié son dernier avis. Il redoute une quatrième vague cet été et appelle à la prudence. Parole à l'un de ses membres, le professeur Arnaud Fontanet sera avec nous à 7h50.
À tout à l'heure, ma chère Léa.
France Inter.
Séquence souvenir hier au Creusot où les barons de la Mitterrandie se sont retrouvés pour célébrer les 40 ans de la victoire socialiste. François Hollande, Lionel Jospin, Pierre Joxe, Bernard Cazeneuve, Anne Hidalgo. Mais certains ont fait un autre choix. Le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, a préféré défiler à Paris pour le climat. À un an de la présidentielle, la gauche est plus divisée que jamais. La nostalgie n'en est que plus grande. C'était donc il y a 40 ans, le 10 mai 81. Laurence Perron.
François Mitterrand est élu président de la République.
Geneviève, 32 ans à l'époque, se souvient.
Là, c'était mais hyper... Je sais pas. On est tous allés à la Bastille. Vraiment, il y avait une fête de joie, mais pas possible.
Qu'est-ce que ça représentait, l'arrivée de la gauche au pouvoir?
Tous les possibles. On espérait beaucoup, beaucoup.
Lionel Jospin, en réalité, avait donné le top au siège du PS, rue de Solferino, dès 18h30. François Mitterrand est alors dans son QG de Château-Chinon, à Deviser-Forêt, avec l'ancien patron de France Inter, Yvan Levaille. Jean Glavany, l'un de ses proches, se penche à l'oreille du président.
J'ai pas vu une ride bouger sur son visage, tout, une maîtrise de lui totale, impressionnante. Il a recommencé son raisonnement sur la forêt, ce qui a provoqué l'irritation de Levaille, qui a dit « Mais non, on s'en fout de la forêt du Morvan ».
Le lendemain, la bourse dévisse, on entend des gens expliquer qu'on paiera bientôt sa baguette en roubles. 40 ans plus tard au Creusot, Pierre Joxe, fidèle d'entre les fidèles, jette son pavé dans le marigot de la gauche.
Qui plante à gauche? Qui arrose? Qui fait progresser? Je dirais pas sur mon regard, ça pourrait être mal pris.
Cécile et Denis, pas encore 50 ans, attendent désormais un sursaut des socialistes actuels.
Il n'y a pas d'union.
Qui s'est vraiment lancé dans la course, à part plutôt entendre « j'y vais pas, j'y vais pas ».
Hidalgo, vous n'y croyez pas?
Hidalgo? Je pense plus à un retour de François Hollande au dernier moment.
François Hollande, justement, l'autre ancien président socialiste de la 5e République, sera l'invité du grand entretien tout à l'heure à 8h20. Et pour tester vos connaissances sur le 10 mai 81, un quiz sur franceinter.fr.
Il est 7h04, Agnès. Deux hommes interpellés hier soir dans l'enquête sur la mort du policier tué mercredi dernier à Avignon.
Quelques heures seulement après une émouvante cérémonie d'hommage devant le commissariat d'Avignon, deux hommes ont donc été interpellés à une vingtaine de kilomètres de là, près de Remoulins. Ils tentaient visiblement de fuir vers l'Espagne. Les précisions de Gaël Joly.
Les deux suspects ont été interpellés sur l'autoroute A9 à une vingtaine de kilomètres d'Avignon au niveau du péage de Remoulins sur la commune de Fournes. Depuis 4 jours, la BRI, la brigade de recherche et d'intervention de Montpellier, était sur leurs traces, dispositif de filature, surveillance. Les policiers d'élite ont décidé d'intervenir quand ils ont compris que les deux suspects tentaient de fuir en Espagne. L'un d'eux est soupçonné d'être l'auteur des coups de feu qui ont coûté la vie à Éric Masson. L'homme de 36 ans est mort au cours d'une banale intervention sur un point de drogue au cœur de la Cité des Papes. La traque a mobilisé jour et nuit plus de 80 personnes. Le crime ne doit en aucun cas rester impuni, a tweeté hier soir Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur s'est félicité de cette arrestation.
Et le Premier ministre doit recevoir aujourd'hui les syndicats de police. Une nouvelle tribune de militaires sur le site de Valeurs Actuelles. Une tribune cette fois de militaires d'active et ouverte aux signatures qui dénonce, je cite, les banlieues abandonnées, les accommodements avec la délinquance et les tentatives d'instrumentalisation de plusieurs communautés religieuses. Le texte mis en ligne hier soir a recueilli plus de 400 000 signatures. Nous y reviendrons dans le journal de 8h.
Il est 7h05, nouveau coup d'accélérateur sur la vaccination.
Les plus de 50 ans peuvent désormais se faire vacciner grâce au Pfizer Pfizer-BioNTech réservé aux moins de 55 ans. L'Union européenne a d'ailleurs commandé 1,8 milliard de doses supplémentaires. Le Premier ministre demande lui aux plus de 55 ans de privilégier l'AstraZeneca. L'autre question, c'est l'organisation des vaccinodromes. Tous sur le pont, a demandé le ministre de la Santé, qui vaccinera lui-même demain. Mais les 2000 centres dans l'Hexagone seront-ils ouverts pour ce pont de l'Ascension ? Élément de réponse avec Béatrice Duguay.
La réponse se lit déjà, hélas, dans les prises de rendez-vous, témoigne Stanislas Gnoc-Château, le patron de Doctolib.
Il y a moins de 200 000 injections quotidiennes de prévues le 13 mai, le 14 mai, le 15 mai et le 16 mai.
Contre plus de 500 000 personnes vaccinées chaque jour la semaine dernière. Fidèle au poste jeudi, l'équipe de Jonzac en Charente-Maritime. Car les jours fériés...
On ne connaît pas.
Vaccination 12 heures par jour, 7 jours sur 7, enchaîne Alexandra Paulet, médecin généraliste, coordinatrice de la structure. 2370 doses à assurer cette semaine.
On n'était pas en termes de réfléchir si c'était férié, si c'était pas férié. Il y a des gens à vacciner, il faut le faire. Donc, on a mis en place des équipes et on a trouvé des volontaires pour le faire.
Des volontaires recrutés chez les soignants retraités, mais aussi à l'établissement thermal de Jonzac. Ce centre fait un peu figure d'exception. Certes, le vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, Gerland à Lyon, le vélodrome à Marseille, l'hôpital de Pau ou le prisme d'Aurillac seront ouverts. Mais presque deux tiers des centres s'annoncent fermés pour l'Ascension, indique Stanislas Gnoc-Château.
Il y a des problèmes de fatigue du personnel soignant, du personnel administratif. Et donc, il y a un enjeu fort d'aller aider pour qu'ils aient encore plus de moyens que ce qu'ils ont aujourd'hui.
La mobilisation en ce jeudi férié dépend aussi de l'avancement de la campagne. En Maine-et-Loire, les trois quarts des personnes à risque sont vaccinées. Le centre de Baugé, par exemple, s'accorde donc le pont, mais il reste ouvert jusqu'à 21h15 pendant trois jours pour compenser.
Et l'objectif des 20 millions de vaccinés devrait être atteint le 17 mai. On est aujourd'hui à près de 18 millions de doses injectées. Le nombre de patients en réanimation est repassé hier sous la barre symbolique des 5000 et le taux de positivité des tests continue également de baisser, passant de 6,2 à 5,8%. Accélérer la campagne de vaccination aussi aux États-Unis en vaccinant les enfants. L'autorité de régulation du médicament doit donner son feu vert dans les heures ou les jours qui viennent. Cela faciliterait la réouverture des écoles dont beaucoup sont fermées depuis plus d'un an. À Washington, le reportage de notre correspondant Grégory Phillips.
Le dimanche après-midi, les adolescents du quartier se retrouvent sur le terrain de basketball. Et même s'ils sont plus préoccupés par la réussite de leur tir à 3 points que par l'avancée de la campagne de vaccination, ils ont quand même leur avis sur la question. Moi, je souhaite être vacciné, dit Nick, 14 ans, parce que j'ai envie de retourner à l'école. Il y a beaucoup de monde là-bas. C'est mieux si on est vacciné. Dale, 12 ans, est plus circonspect. Je ne sais pas trop. Ma mère, quand elle a reçu sa première dose, elle était épuisée pendant 2 jours. Je suis assez sceptique, aussi par rapport à ce que j'entends aux informations. L'objectif des autorités sanitaires américaines est pourtant de vacciner rapidement un maximum de 12-15 ans, puis de baisser cet âge progressivement. C'est ce que l'épidémiologiste en chef, le docteur Anthony Fauci, expliquait il y a quelques jours sur CNN. Absolument, c'est le but. Sur les 12-15 ans, on sait que le vaccin est sûr et efficace. Donc on voudrait descendre progressivement aux 9-12 ans, aux 6-9 ans, aux 2-6 ans, puis les enfants à partir de 6 mois. Et on espère que début 2022, on sera capable de vacciner tous les enfants, quel que soit leur âge. Pour l'instant, le vaccin Pfizer est autorisé aux États-Unis pour les 16 ans et plus, Moderna à partir de 18 ans. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
Et en France, c'est aujourd'hui que les députés examinent le projet de sortie de l'état d'urgence sanitaire, mais de nouvelles mesures comme le pass sanitaire font grincer quelques dents. Commentaire du député LR Philippe Golsin, c'est un peu comme le Canada Dry, ça s'apparente à une sortie qui n'en est pas une. Les sénateurs se penchent, eux, sur le texte qui prévoit d'inscrire la défense du climat dans la Constitution, qu'Emmanuel Macron veut soumettre à référendum, mais qui pourrait être ajourné faute d'accord entre députés et sénateurs. La question s'est d'ailleurs invitée hier dans les cortèges pour le climat. Dans ce contexte, la disparition de la dernière usine de papier recyclé en France pose question. L'usine de la Chapelle d'Arblay, près de Rouen, est à l'arrêt depuis un an. UPM, la multinationale finlandaise qui en est propriétaire, n'en veut plus. Une réunion cruciale se tient aujourd'hui. Maxime Debs.
Faire en sorte que la pièce tombe du bon côté, c'est tout ce que l'on peut faire, répond Bercy, pour qui l'affaire est surtout entre les mains du propriétaire, tenu par le législateur de trouver un repreneur, loi Florange oblige. À ce stade, 6 marques d'intérêt lui ont été formulées. Cyril Briffaut de la CGT ne comprendrait pas qu'aucune ne se concrétise.
C'est une usine vertueuse. À chaque visite du site, tout le monde repart avec les yeux brillants en disant « mais c'est pas possible, ça doit absolument redémarrer. C'est le modèle d'industrie qu'on devrait avoir partout. »
Dans les 6 projets identifiés, 4 concernent l'activité papier. 1, l'hydrogène, et le dernier porterait, semble-t-il, sur la transformation du site en un ensemble immobilier. Ça, l'État n'en veut pas. L'exécutif réaffirme sa priorité, que l'activité papier perdure, quitte à ce qu'une production de carton marché en plein essor du fait du boom des livraisons ne remplace demain celle du simple papier recyclé. Pas une mauvaise idée pour Arnaud d'Auxerre, élu sans étiquette au CSE de la Chapelle d'Arblay.
Ça aurait d'autant plus de cohérence que de l'autre côté du boulevard va se construire un gros dépôt Amazon. Ça aurait du sens, et là on parlait vraiment d'économie circulaire et d'écologie industrielle territoriale.
Il ne s'agit en tout cas pas de sauver l'activité des salariés avec une solution au rabais, commente une voix au cabinet d'Agnès Pannier-Runacher. Lâcher un gros cocorico aujourd'hui pour que dans 6 mois, 1 an, on se retrouve au même point qu'avant.
Maxime Deps. Après une nuit d'orage, alerte pluie, inondation dans 5 départements ce matin. L'Ain, l'Ardèche, la Haute-Loire, la Loire et le Rhône. La promesse d'un titre s'éloigne pour le PSG qui a fait match nul hier soir 1-1 à Rennes. Lille qui avait battu Lens vendredi est toujours en tête avec 3 points d'avance sur les Parisiens. Le suspense reste donc entier pour la 37e journée de Ligue 1 dimanche. Lille accueille Saint-Etienne et le PSG reçoit Reims. Enfin pour les athlètes, c'est la dernière ligne droite avant les JO de Tokyo dans 2 mois et demi. L'équipe féminine de judo débute ainsi un stage de préparation à Saint-Cyprien dans les Pyrénées-Orientales. La Benjamine Chérine Boucli a tout juste 22 ans. Elle va concourir dans la catégorie des moins de 48 kilos. Portrait d'un poids-plume au mental d'acier. Stéphanie Mora.
Entre cette période,
j'ai commencé le judo à 4 ans. J'étais au club d'Aramon dans le Gard.
Et novembre dernier à Prague.
C'est terminé, les championnes d'Europe, quelle leçon de judo!
C'est vrai que Chérine... Elle est arrivée comme une fusée, en fait.
17 ans se sont écoulés dans la vie de Chérine Boucli. La petite fille, transformée en fusée, si l'on en croit son entraîneur, Larbi Ben Boudaoud, a profité du report des Jeux pour s'imposer dans sa catégorie des moins de 48 kilos. Tout a commencé dans le club de son oncle, avec les frères et les cousins.
On était entre famille, donc on voulait se bastonner un petit peu entre nous. Après, voilà, je voulais réellement tout gagner.
Direction Montpellier, puis le Pôle France de Marseille, et enfin l'INSEP en 2016. Chérine Boucli a 17 ans, les débuts ne sont pas simples.
Quand t'es petit comme ça, que t'es jeune, bah, t'as des filles qui sont beaucoup plus âgés et qui ont plus d'expérience, donc tu t'es un peu massacré, quoi.
L'ambiance familiale du Flamme 91, son nouveau club, l'aide à passer le cap. On parle d'elle pour Paris 2024, mais pour sa première saison en senior l'an dernier, elle remporte le tournoi de Düsseldorf, le championnat d'Europe et enchaîne en février avec le Grand Slam de Tel Aviv. Chérine écoute Damso, Boucli n'a pas de modèle en judo, elle trace.
Et voilà, je sais ce que je veux, j'ai mes objectifs, je check à chaque fois, et pour moi, voilà, un titre de championnat, c'est le meilleur titre qu'on peut avoir.
C'est Objectif Tokyo pour la fusée Boucli.
Et on suivra Chérine Boucli le 24 juillet au JO de Tokyo.
Merci Agnès Soubiran. Le zoom dans 3 minutes quand la drogue s'ancre dans les territoires ruraux.